Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous demander d'attacher vos ceintures, car nous allons traverser quelques turbulences, autant militaires, bien entendu, que politiques. Je commencerai par vous présenter deux événements dont vous pourrez juger par vous-même de la véracité. Ensuite, je peindrai à très, très, très grands traits l'état de la Sicile entre les deux guerres, à peu près un quart de siècle, entre 18 et 43. Ensemble, nous débarquerons sur les côtes de l'île, bien entendu. Et je conclurai, si j'en ai le temps, Madame la Présidente m'arrêtera au cas où je déborderai trop, en vous disant dans quel état se retrouve la Sicile dans les mois et les toutes premières années d'après sa libération. Alors, sur cette carte, je vais vous situer quelques villes. Tout le monde ne connaît peut-être pas la Sicile. Alors, il y a des points évidemment importants. Je vais essayer de vous les montrer. Alors, on a Syracuse, la presqu'île de Pacino, Gela. Je cite ces lieux parce que c'est là que le débarquement, tout au moins dans cette région-là, que l'opération Husky, c'est son nom de code, va avoir lieu. Agrigente et Porto Empédocle, Palerme, bien sûr, Baghera et Termini, ses voisines, Trapani, une base militaire importante, à l'est Catane. Un point très important, c'est forcément l'Etna qui jouera un rôle essentiel dans la défense par les Allemands. Je dis les Allemands, vous verrez pourquoi tout à l'heure, dans la défense de la Sicile. Messine, bien entendu, et le centre autour de Denna Caltanissetta, et une petite localité ici, Bronte, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Alors, je vous ai parlé de deux faits. Voici le premier. Il paraît bien anodin en période de guerre, puisqu'il s'agit simplement de la découverte d'un cadavre d'un militaire allié par un pêcheur espagnol sur une plage de Huelva. Pour qui ne connaît pas Huelva, c'est à l'extrême sud de l'Espagne, pas très loin de la frontière avec le Portugal. Nous sommes le 30 avril 1943, il est 7h30. D'après les papiers trouvés sur ce cadavre, il s'agit d'un certain major Martin. Menotté à son poignet, une mallette contenant de toute évidence des documents de la plus haute importance. Jugez vous-même. Ce que contient cette mallette n'est ni plus ni moins que l'annonce d'attaques simultanées en Sardaigne et en Grèce, préludant à un débarquement qui aurait lieu en Provence. Une attaque sur la Sicile aurait bien lieu, mais pour faire diversion. Des lettres d'importance capitale sont jointes à ces documents. L'une est même signée de Sir Archibald Nye, qui n'est ni plus ni moins que l'adjoint du maréchal Brooke, chef d'état-major général des troupes anglaises. Cette lettre est adressée au général Alexander, qui, avec le général Eisenhower, pour le compte des Américains, va commander ce débarquement en Sicile. L'Espagne franquiste de l'époque a beau être neutre, elle est infestée d'espions, que ce soit de l'Abwehr, que ce soit d'anglais, d'allemands, d'américains, ça fourmille de partout. Et bien entendu, la neutralité espagnole n'est pas telle que les Allemands soient prioritaires pour récupérer ces documents. Mais au bout de quelques jours, Le cadavre et la mallette dont j'ai parlé sont restitués au consul britannique, en apparence, sans qu'il y ait eu quelque chose de touché. On a tout refermé correctement, tout rendu, mais les services britanniques ne sont pas dupes. Alors ceci est l'aboutissement d'une opération montée évidemment de toutes pièces par les services secrets britanniques, une opération qui s'appelle Mincemeat, ce qui veut dire chair à pâté, hein, ça doit être ça. Hein? Les noms de code sont toujours très, très curieux. Hein? UHI, voilà. Hein? Et ce qui fit dire à un commandant de sous-marin britannique, le HMS Jewel, qui a largué au large de Huelva le corps en question, car ce corps n'est pas arrivé accidentellement, il a été largué par les services secrets britanniques. Mincemeat completed. Opération Hachi terminée. Dans le quartier militaire du cimetière de la Solitude à Huelva, où fut enterré le major Martin par les services britanniques, une tombe est toujours visible. Mais elle porte curieusement maintenant un autre nom. Un nom imprononçable. Je vais essayer quand même. Il s'agit de Glúint Michael. Michael, ça va? Il s'agit d'un Gallois, en fait. Le véritable héros de l'opération. Un marginal gallois dont on avait récupéré le corps après sa mort. C'était un alcoolique mort d'une pleurésie. Et selon les services médicaux, il paraît que l'alcool plus la pleurésie, ça fait le même effet qu'une noyade. Donc, les services allemands ont été dupés par ce subterfuge des services alliés. Alors, ça paraît bien abracadabrantesque, mais qu'est-ce que je fais pour que ça remarche? Marche plus. Voilà. Alors donc, c'est abracadabrantesque, mais ce n'est pas sans conséquence. Car des renforts de la Wehrmacht embarquent pour la Sardaigne, voire même la Corse. Ensuite, et surtout, Rommel est envoyé en Grèce. Ensuite et encore, deux divisions de Panzer sont envoyées de Russie en Grèce. Et comme quelque temps après, la gigantesque bataille de chars de Koursk va avoir lieu, elles vont cruellement manquer aux Allemands qui vont bel et bien prendre la pâtée par les Russes. Les Allemands ont donc mordu à l'hameçon. J'ai un problème, ça ne fonctionne plus. Ça n'avance plus. Au secours.
Il faut orienter l'appareil vers l'ordinateur.
Voilà.
Quoi que je fasse, personne ne peut m'aider.
Il faut le faire à l'ordinateur.
Même si je fais à l'ordinateur. Voilà. Ah. Voilà les papiers du faux major Martin. Il n'a pas une tête d'alcoolique, mais on l'avait peut-être un peu maquillé quand même. Le deuxième fait, j'y arrive, paraît encore plus anodin. Nous sommes le 14 juillet 1943. Le débarquement a déjà eu lieu. Il a eu lieu le 10. Et ce jour-là, un chasseur américain, rien de surprenant, survole à basse altitude un tout petit village du centre de l'île, le village de Villalba. Nous sommes au la carte ne présente pas d'intérêt si ce n'est de situer quand même Villalba. On voit la mer au nord, la mer au sud. C'est très important parce que c'est un lieu où le fascisme n'a guère pu s'implanter et où la mafia est demeurée maîtresse des lieux. Alors, cet avion américain arbore un drapeau. Un drapeau jaune avec en son centre un L rouge. Et ce L et ces couleurs, rouge et jaune, sont passées dans l'air, ce sont celles d'un certain Lucky Luciano, dont vous connaissez l'excellente réputation aux États-Unis, gangster parmi les gangsters. Alors ce drapeau aurait été enfermé également, un autre drapeau aurait été enfermé également dans un petit colis que cet avion aurait largué au-dessus de la commune. Une première fois, car le paquet n'est pas arrivé à son destinataire. Et donc le lendemain, un même avion ou un autre avion, arborant toujours le même drapeau, largue à nouveau, paraît-il, un petit paquet qui, celui-ci, va arriver à son destinataire. Ce destinataire, eh bien, c'est le chef mafieux du lieu, un certain Zuccalo, de son vrai nom, Don Calogero Vizzini. Voilà Lucky Luciano. Voilà. Photo anthropométrique de la New York, de la police new-yorkaise. Et voici Don Calogero Vizzini. De fait, quelques jours plus tard, le 20 juillet 1943, je vous rappelle que le débarquement a eu lieu le 10, hein, trois chars américains entrent dans Villalba. Ayant présenté le fameux drapeau jaune contenu dans le petit paquet qui lui a été remis, Zuccalo se hissa sur l'un des chars, accompagné par son neveu, qui serait rentré récemment, paraît-il, des États-Unis. Comme il parle anglais, ça a peut-être facilité l'échange entre Zuccalo, qui lui, pauvre Sicilien mafieux, ne devait pas forcément me parler. Et effectivement, il ne rentrera dans sa localité que 6 jours plus tard. Après un mouvement de tenaille, savamment orchestré par les troupes américaines, qui ont pu encercler Italiens et Allemands dans le centre de la Sicile et permettre une avancée considérable de leurs troupes. Alors, beaucoup de Siciliens connaissent l'histoire de Don Calogero et du mouchoir jaune. Et certains croient même que Lucky Luciano était dans l'un des trois chars. Pure affabulation. Cependant, cette histoire est attestée, si elle peut l'être, par un certain Joey Bananas. Encore une photo anthropométrique de la police new-yorkaise. Vous le connaissez tous, ce personnage. De son vrai nom, Bonanno, car il a inspiré Mario Puzo pour Le Parrain. Le Parrain, c'est Joey Bananas. Alors aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent pour dire que toute cette histoire n'est que pure affabulation. La vie de Luciano ne colle pas du tout à cette légende. En 1933, il avait pris le contrôle de la prostitution new-yorkaise, une petite chose à côté de tous les autres méfaits qu'il a pu commettre. Un fiasco pour lui, puisque arrêté dès 1936. Il est condamné à plus de 30 ans de prison. Verdict le plus sévère jamais rendu pour proxénétisme aux États-Unis. Mais la chance lui sourit à nouveau avec l'entrée des États-Unis en guerre. En février 1942, Le paquebot Normandie, qui ne s'appelle plus Normandie, mais Lafayette, s'embrase et sombre dans l'Hudson. Le voici en feu à gauche et en contrebas à droite, en train de sombrer. Accident sans doute, puisque les travaux avaient lieu à bord à ce moment-là. Les Américains pensaient en refaire en premier lieu un porte-avions, mais les travaux auraient été trop importants. Ils pensaient donc, après réflexion, en faire un transport de troupes. Et on était en train de le réaménager pour ça. Alors, accident vraisemblable, mais on est en pleine guerre, donc certains ont avancé l'idée d'un sabotage, bien entendu. Donc, il faut remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et les services secrets américains vont faire appel à la pègre new-yorkaise pour essayer de remettre de l'ordre dans le port de New York. Ils vont faire d'abord appel à un certain Tsox, Chaussette, c'est son surnom. De son vrai nom, il s'appelle, il faut que je retrouve, Joseph Lanza. C'est le patron du gigantesque marché aux poissons de Fulton. Et puis, ils vont faire appel aussi à Lucky Luciano. Ils vont même le changer de prison, le ramener à New York, pour qu'il puisse les renseigner un petit peu plus aisément. On raconte donc que les gangsters américains éliminaient, est-ce vrai, est-ce faux, vite fait, bien fait, des espions allemands. On dit aussi que Luciano fut libéré en échange du soutien de la mafia au débarquement allié. Faux, absolument faux, puisqu'il ne quitta sa prison qu'en 1946 pour être extradé immédiatement vers l'Italie. Et comme le dit dans son roman, dans son livre, un document plus qu'un roman, Cosa Nostra, l'écrivain britannique John Dickey, il n'y eut donc pas de machination américaine visant à s'allier avec la mafia pour libérer la Sicile. D'ailleurs, il serait difficile d'imaginer les alliés confiant les secrets de l'opération Husky, le plus grand assaut amphibie de l'histoire, à des voyous. Si la légende de Don Calo persiste au cœur de la Sicile, un historien local fournit un compte-rendu sans doute plus réaliste des événements de ce fameux jour de 1943. Selon lui, Don Calo aurait pris la tête d'une délégation de villageois qui alla à la rencontre des troupes américaines, dont le commandant avait demandé à parler à toute personne ayant une responsabilité dans la commune. Quelques jours plus tard, le boss, Don Calogero, fut d'ailleurs nommé maire de sa commune, Villalba. Son histoire est exemplaire à Villalba et dans tout le centre de la Sicile. Comme dans tous les villages, les habitants, là des souffrances et des privations dues au fascisme, à la guerre, accueillir les troupes alliées à bras ouverts. De plus, ils aimaient l'Amérique. Beaucoup des migrants siciliens, les Americani, étaient rentrés des États-Unis, certains avec économie, diplôme, goût de consommateur moderne, et bon nombre de GI en plus, étaient issus de familles siciliennes, ayant émigré vers l'America, en deux mots bien distincts. Dans quel état se trouve donc leur île en ce milieu de l'année 1943? Nous allons faire quelques pas en arrière. Nous sommes en Sicile, au pays d'un certain proverbe peu flatteur, « Meglio porco che soldato ». Je traduis pour ceux qui ne parlent pas italien, mieux vaut être un cochon qu'un soldat. Le patriotisme ne semble pas être le point fort des Siciliens. Cependant, si le commandant des carabiniers estime, j'appuie toujours, je ne sais plus, j'en étais là, vous m'excuserez, je ne maîtrise absolument pas la chose. Voilà. Oui, c'est normal. C'est normal. Bon, je reviens.
Ça, c'est un.
J'en étais donc à vous dire que si le commandant des carabiniers estime à plus de 72 000 le nombre d'Iliens ayant refusé la conscription durant la Première Guerre mondiale, il inclut dans cette statistique les près de 68 000 émigrés qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu rentrer en Sicile pour participer au combat. De fait, pendant cette Première Guerre mondiale, 50 000 Siciliens vont être tués, et mieux, 9331 exactement sont décorés au titre de la bravoure militaire, ce qui est une quantité non négligeable. À l'issue du conflit, voire même dès après le désastre de Caporetto, naît l'ONC, Opera Nazionale Combattenti, dont l'idéologie est fort prisée en Sicile. Dans l'île, l'état d'esprit combattismo, ancien combattant, prend la forme de l'exaltation de la solidarité entre ceux qui ont été sur le front et celle de l'exécration des neutralistes, latifundistes et socialistes confondus. Les premiers, attachés à leurs immenses domaines, les autres, prônant la socialisation de la terre. L'ONC encourage l'occupation de ces terres, en particulier au centre de la Sicile. Rapidement, 341 latifundia sont morcelés pour un grand tiers acheté par des paysans qui s'endettent fort dangereusement, un petit tiers par des coopératives, le reste par des intermédiaires privés. Les grands propriétaires acceptent difficilement cette perte de pouvoir et ont parfois recours au service de la mafia, dont l'arme de préférence, la loupara, élimine souvent les récalcitrants. Loupara vient de lupo, le loup. C'est une arme de chasse dont on assied le canon pour que les blessures soient encore plus graves. Il n'en reste pas moins que l'heure de gloire des latifundium est terminée. Celle du fascisme arrive. Où n'est-il? Sans doute dans la plaine du Pô. Bien loin de la Sicile, dans cette plaine filmée par Bertolucci en 76 dans Novecento. Il apparaîtrait dans l'île dès les années 20, autour de Raguse et Syracuse. Vous avez vu sur la carte, on reverra ces localités tout à l'heure. Une zone devenue rouge. Avola, Raguse, Molica, Lentini, des localités relativement voisines, passent sous contrôle socialiste. Un ouvrier devient même maire de Syracuse. Vous en rendez-vous compte ? Les propriétaires, les grands propriétaires, sont outrés. D'autant que les braccianti, leurs manœuvres agricoles, se mettent à réclamer des augmentations de salaire. Où va-t-on? Ils ne voient donc pas, ces grands propriétaires, d'un mauvais œil, l'apparition des premiers fascistes prônant la défense des valeurs nationales et évidemment la lutte contre le socialisme municipal. soutenu par le PNF, Partito Nazionale Fascista. Ils sont 10 à 12 000 à la veille de la marche sur Rome, d'octobre 1922. Leur nombre est déjà multiplié par deux en 1923. Mais les notables conservent, pour l'instant, les rênes du pouvoir. En mai 1924, Mussolini, il va revenir.
Le voilà.
Ah, il est forcément plus beau que Joey Banana, c'est du Luciano, mais enfin, on peut avoir une idée différente quand même. Et l'ONC encourage l'occupation des terres, en particulier au centre de la Sicile. Rapidement, non, mais je l'ai déjà dit ça, hein. Je me suis trompé. Je vous prie de m'excuser. Avec ma non-maîtrise de la machine, je me suis un peu perdu. Voilà, en mai 1924, Mussolini, j'y arrive, visite l'île, accompagné par ses trois ministres siciliens de l'époque. De ce voyage, deux épisodes méritent d'être rappelés. Dans une petite localité du centre de la Sicile, à Piana degli Greci, je prononce très mal, je peux m'excuser, le Duce subit un affront public lorsque Don Ciccio Cuccia, le maire, et parrain notoire, lui dit, s'étonnant de l'imposant service d'ordre, « Votre Excellence n'a rien à craindre à mes côtés, car dans toute cette zone, c'est moi qui commande. » Affront suprême. De cet instant, Mussolini n'aura de cesse de combattre la mafia. Et sa première mesure est de nommer un certain Cesare Mori préfet de Trapani. Le voici dans son beau vêtement de fasciste. C'est de son surnom est très connu, c'est le préfet de fer. Dans une autre commune, entre Catane et Syracuse, deuxième événement de cette visite de Mussolini, à Val di Savoia, le train dans lequel se trouve le Duce est contraint de s'arrêter par une manifestation. Et le Duce est mis devant le fait accompli, et il est le témoin de l'affrontement de deux fractions de la bourgeoisie, d'une part les agrariens et d'autre part les représentants des lobbies financiers. Assurément, cet événement montre que les rapports entre le fascisme et les notables siciliens ne sont ni simples ni idylliques. Mais à Palerme, à Catane, à Messine, les cartes sont redistribuées, faisant fi des résultats électoraux, voire même du passé de certains élus, tous les pouvoirs passent désormais dans les mains des préfets, dont Cesare Mori va bientôt être le grand patron, puisqu'il va être nommé à Palerme. Il est donc alors le seul maître à bord du vaisseau Sicilia, avec pour seul cap, venir à bout de la mafia. Pour ce faire, il mène de véritables opérations de guerre, comme par exemple à Ganji, entre Céphalou et Enna. Note de sa main. Bandits de Ganji, 160. Complices, tous les autres habitants de la commune. Quand elle sait qu'il y a 16 000 habitants à Ganji, oui, la démesure de ce qui est proposé par Cesare Mori. La population favorable est même mise à contribution, voire honorée, comme elle le mérite, Une grande cérémonie, par exemple, est organisée pour décorer un paysan qui a abattu un voleur, forcément mafieux. L'ordre doit régner. L'ordre règne. Tant que l'on peut dormir, portes ouvertes. C'est d'ailleurs le titre d'un roman d'un écrivain sicilien, Tiaccia, écrit à cette époque. Maury est parfaitement secondé par le procureur général de Palerme, un certain Luigi Giampietro, qui conduit 15 maxi-procès, dont 6 comptant plus de 1000 accusés. Tout est dans la démesure. En fait, si quelques familles sont durement touchées autour de Palerme et de Bagheria, sa voisine, la mafia résiste fort bien au cœur de l'île, dans cette région autour de Villalba, que j'ai citée tout à l'heure, Enna, Caltanissetta. Tout le cœur de l'île n'est pratiquement pas atteint par le fascisme, ou si peu que c'est très très superficiel. D'ailleurs, la reconstitution quasi immédiate des réseaux mafieux après la libération de 1943 l'atteste. Plus significatif est le déclin du bloc agraire. Les grands propriétaires sont écartés du pouvoir. Le préfet, maintenant, seul maître à bord, comme je l'ai dit tout à l'heure, préside le conseil provincial de l'économie. Il n'y a plus d'élection administrative. Un podestat remplace le maire. Il est nommé par décret royal. Curieux quand on sait le rôle que détient le roi à cette époque. Certes, Victor Emmanuel va se rendre en Sicile. L'accueil sera poli, sans plus. Et cela n'a pas laissé grand-chose dans les mémoires. Il n'en reste pas moins que même avec 400 000 adhérents quand même, hein, au PNF, ce fameux Partito Nazionale Fasciste, en 1939, la Sicile paraît comme une terre sur laquelle la dictature fasciste n'a guère de prise. Pas d'opposition frontale, certes, mais une forme d'extériorité et d'imperméabilité au dessein du régime. Il en ressort l'image d'une société grise et conformiste sous le signe de l'ennui. L'ennui, c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage de l'écrivain sicilien Vitaliano Brancati, dans lequel il dit de son héros, ayant 30 ans en 1937, il s'adonnait à l'unique occupation noble que put pratiquer un homme tel que lui, il s'ennuyait. 1937, année du second séjour de Mussolini dans l'île. Il promet aux Siciliens un destin glorieux au sein de l'Empire. Car maintenant, l'Italie est un empire, l'Éthiopie vient d'être conquise. La Sicile doit devenir, ce sont ses paroles, le centre géographique du second empire de Rome. Elle doit devenir et deviendra l'une des contrées les plus fertiles de la terre. Ces propos sont extraits du discours qu'il prononce à Palerme. La décision la plus spectaculaire est d'en finir avec le latifundium. Il faut rompre avec le passé. L'Italie, la Sicile sont entrées dans une ère nouvelle. Pure utopie. Quelques projets seulement que la guerre contraint d'abandonner. Seule exception, l'expropriation. En juillet 1940, du duché de Nelson, considéré comme un morceau d'empire britannique au cœur de la Sicile, un cadeau du roi Ferdinand, le roi Ferdinand Ier de Bourbon, roi des deux Siciles, à l'époque napoléonienne, qui s'était permis d'offrir une terre sicilienne à la famille Nelson. Voilà une image de la propriété de la famille Nelson dans la localité de Bronte, que j'ai située sur la carte tout à l'heure, sur la pente ouest de l'Etna. Le village, un village est construit juste devant cette propriété, Caracciolo. Il sera détruit avec la complicité des autorités locales et à la demande des propriétaires britanniques, de la famille Nelson, en 1964. 8 bourgs sont néanmoins édifiés, tous abandonnés depuis. Les autorités fascistes projettent même d'édifier, en l'honneur de Mussolini, une cité qui s'appellerait évidemment Mussolinia. Il y en a une qui, je crois, existe. Il y a une localité qui s'appelle Mussolini en Sardaigne, peut-être. Et j'ignore, je pense, peut-être. Mais en tout cas, là, celle-ci aurait été en Sicile. Il en pose la première pierre à l'occasion de ce deuxième voyage, près de Caltagirone, au nord de Raguse, je crois à peu près. Mais cela n'ira pas plus loin. Cet épisode a d'ailleurs inspiré deux ouvrages. Le premier à Leonardo Ciaccia, que j'ai déjà cité tout à l'heure, un bref essai intitulé « Fondation d'une ville ». Et un autre ouvrage à Andrea Camilleri, qu'on connaît pour son fameux commissaire Montalban. Cet ouvrage se nomme « Privé de titre ». Une anecdote à propos de ce village. Au bout de quelques temps, Mussolini s'inquiète de l'évolution des travaux, ce qui ne paraît pas anormal. Donc les autorités locales lui envoient un certain nombre de documents pour lui montrer que tout va bien, que tout avance très vite. Le problème, c'est que sur les photos qu'on lui envoie, eh bien, on voit la mer. Or, la localité, l'endroit où on construit, on doit construire cette nouvelle cité, est à une trentaine de kilomètres du rivage. Donc, le Duce est évidemment furieux et on en restera là à propos de ce Mussolinien. Avec la guerre, l'île se retrouve en première ligne. Elle subit les bombardements dès l'été 1940. Mais la propagande fasciste est très rassurante. Elle affirme, et je cite les propos, « Les bombes anglaises avaient pris l'humidité dans les caves de Malte et elles n'exploseraient pas par crainte des canons. » Ces propos sont extraits d'ailleurs d'un ouvrage de Vitaliani Brancati, Le vieux avec les bottes. Avec les premières défaites en Afrique, l'image du fascisme se détériore, bien évidemment. Au bombardement s'ajoute bientôt la faim, le marché noir, la corruption, la fuite en avant de Mussolini qui transfère les fonctionnaires siciliens sur le continent, et ça ne plaît pas, évidemment. Et Mussolini, par la même occasion, trouve ces bombardements très utiles. C'est un moyen de rendre plus viril le peuple italien. Dernier point, l'hostilité envers les troupes d'occupation allemande fait que les Siciliens voient le 10 juillet 1943 comme une délivrance. Et depuis le mois d'avril, toute l'Afrique du Nord est libérée. Je ne reviens pas sur l'occupation de la Tunisie. Alors ce document est très intéressant parce qu'il nous montre déjà comment vont se placer et avancer toutes les troupes d'invasion. Non. Alors, premier point important, l'île de Pantelleria. Deuxième point, l'île de Lampedusa. Malte, bien sûr. Malte est toujours britannique, mais les deux îlots de Pantelleria et de Lampedusa sont toujours occupés par les Italiens. Pantelleria a beau être minuscule, il y a quand même une garnison de 11 000 Italiens et quelques dizaines d'Allemands. Lampedusa est moins occupée. Donc, piste d'atterrissage sur les deux îlots, très important. Il faut quand même neutraliser ces deux points qui, dans le dos des troupes d'invasion, pourraient être gênants. Donc, bombardement formidable de Pantelleria. Les troupes italiennes se réfugient des collines dans l'île. Des abris ont été creusés. Les troupes se réfugient dans ces collines, à l'intérieur de ces collines. Et après un bombardement énorme, comme je vous l'ai dit, les troupes de débarquement arrivent et le drapeau blanc est hissé. Aucun des 11 000 Italiens ne participe au combat. Il y a cependant un blessé du côté des envahisseurs. Il est mordu par un chacal. J'ignorais qu'il y ait eu des chacals sur une égaude entre la Sicile et la Tunisie. C'est le seul blessé de l'affaire. Deuxième point, Lampedusa, trop connu maintenant. Le lendemain de l'invasion de Pantelleria, un aviateur américain voit son avion tomber en panne au-dessus de l'île. Il ne peut que s'y poser. Et, chose curieuse, les troupes italiennes présentes se rendent à cet unique sergent américain. Alors, autre intérêt de cette carte, elle nous montre le mouvement des troupes. On vient du Moyen-Orient. Moyen-Orient, c'est l'Égypte, évidemment. Ce sont les Britanniques qui vont venir en grande partie du Moyen-Orient. On vient d'Afrique du Nord, bien entendu. On vient même des îles britanniques. Mais ça n'apparaît pas sur cette carte. Donc, les grands ports d'Afrique du Nord, Bizerte, Tunis, jusqu'au Maroc même, en Algérie également, vont servir de point de départ à toute la logistique immense, énorme, qui va permettre ce débarquement en Sicile. Alors, comme la carte vous le montre, ces troupes viennent d'un petit peu partout dans la Méditerranée et leur contingent est énorme. Vont débarquer sur le sol sicilien le 10 juillet 1943 au matin 160 000 hommes, plus que lors de l'opération Overlord en Normandie. Certes, en Normandie, des contingents ont arrivé tous les jours en renfort et le nombre de soldats alliés va être bien plus important, mais le jour J, le nombre de soldats débarquant sur le sol sicilien est plus important. 160 000. Il faut compter 1375 bâtiments et 1839 embarcations de débarquement. Le nombre de chars est énorme. Je suis un peu perdu. Un commandant suprême à cette opération, Husky, le général Eisenhower. Le voici, le voilà. Sous ses ordres directs, adjoint pour les Britanniques, le général Alexander, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour les troupes de débarquement proprement dites, le contingent britannique va être commandé par Montgomery, le contingent américain par Patton. Que du beau monde. Voici le général Alexander, l'adjoint d'Eisenhower. Montgomery et Patton. Alors tous ces gens sont à peu près de la même génération. Ils sont tous nés, je cherche un petit peu, entre 1885, pour Patton, ça doit être le plus âgé, et 1891, Alexander. À l'époque, ce sont des gens quand même, si on compare à nos généraux ou maréchaux en 1914, ils sont relativement jeunes. Et ça, ça a beaucoup d'importance. Du côté de l'Axe, les troupes allemandes et italiennes, on fait plutôt profil bas. Si 160 000 hommes sont présents sur les côtes siciliennes du côté allié, il y a un manque cruel d'effectifs, puisque 8 divisions entières ont été faites prisonnières ou détruites pendant la campagne de Tunisie. C'est énorme. L'île est défendue par une seule armée italienne, commandée par le général Guzzoni. Ce général est un héros, entre guillemets, et de la conquête de l'Éthiopie. Il a été même fait gouverneur de l'Érythrée. Ça n'est pas rien non plus. Autre armée allemande, celle-ci, deux divisions motorisées, la 15e de Panzergrenadier et la division de Panzer Hermann Göring, dont Mussolini, et là c'est une erreur stratégique énorme, exige qu'elle passe sous le commandement italien. L'arrivée tardive d'un général allemand, le général Hube, sous le haut commandement du maréchal Kesselring pour toute l'Italie du Sud et la Sicile en particulier. Voilà, Kesselring. Une anecdote, Hube, ça n'est pas de sa faute, il avait été gravement blessé, il était manchot. Il sera tué dans, on dit, un accident d'avion. Son avion sera abattu en 1945, je crois, au début de 1945. Et Kesselring, qui a une fière allure, était surnommé le général souriant. Dans les airs, la suprématie alliée est telle, 4000 appareils, contre 1500 avions allemands seulement, allemands et italiens, que les bombardiers allemands sont même évacués. On les envoie sur des bases du nord de l'Italie, hors d'atteinte, on l'espère en tout cas, des bombardiers alliés. Tant et si bien que l'opération va se dérouler sans trop de difficultés. Vous allez voir qu'il va y en avoir quand même. Mais seuls 4 navires de convoi et 2 LST, ce sont ces transports de chars, seront détruits, et encore 2 par un sous-marin allemand. Un élément aurait pu contrarier le cours des événements, tout comme en Normandie, presque un an plus tard, le temps. De fait, dans la nuit du 9 au 10 juillet 1943, le vent se met à souffler. Plus que de coutume, c'est problématique pour les navires. C'est quasi la catastrophe pour les troupes aéroportées. La 82e Airborne, qui se rendra célèbre un an plus tard en Normandie, dans le Cotentin, autour de Sainte-Mère-l'Église, voit ses hommes dispersés sur un espace de près de 80 km de diamètre. Quant aux 134 planeurs britanniques, eh bien, ils ne sont que 87 à toucher le sol de la Sicile, et pas forcément là où ils voulaient. Toutefois, cette dispersion imprévue contribue à répandre largement l'alarme et la confusion derrière les lignes ennemies. Il en arrive de partout. Ça surprend tout le monde. Et les Italiens en particulier, qui sont majoritaires dans la défense de l'île, ont jugé bon, en plus, d'aller dormir sans placer vraiment de guetteurs, car vu le temps, ils se sont imaginés que rien ne pouvait se passer durant cette nuit. Donc, grande surprise au réveil, la mer est couverte par une invincible armada. L'opération Husky est bel et bien commencée. La 7e armée de Patton va débarquer entre Licata et une autre localité qui s'appelle Scogliti, avec pour centre névralgique Gela. Vous voyez là où il y a toute cette partie. Les troupes anglaises, je devrais dire les troupes britanniques, vont débarquer entre Syracuse et la presqu'île de Pacino. Ici, écossais et canadiens sur la presqu'île. Troupes, là je dirais britanniques, parce que dans les troupes britanniques, nous avons des indiens, nous avons des sikhs, il y a des troupes qui viennent du monde entier, hein, dans le golfe de Noto. Hein, je crois que c'est le golfe de Noto. Hein. L'objectif de ces troupes, c'est de faire leur jonction dans la plaine au nord de Ragusa. Ragusa se trouve par ici, voilà. Donc, on pensait rapidement se retrouver ici. On a ici la situation des troupes de défense italiennes, allemandes, italiennes encore, allemandes ici, et cette division de Panzer Hermann Göring aura un rôle fort inquiétant tout presque après le débarquement, vous allez le voir. Alors, bien que peu aguerries, les troupes américaines s'emparent de Gela sans coup férié, car les troupes italiennes qui défendaient la côte se sont enfuies. Il n'y a pas eu de combat. Les troupes britanniques, elles, rencontrent une défense un petit peu plus importante. Mais l'amiral Leonardi, qui commandait la Piazza Maritima Augusta Syracusa, c'est bien compliqué, se retire lui aussi sans coup férir vers le nord, et les Anglais entrent sans difficulté dans Syracuse. Donc, les objectifs du premier jour sont atteints sans problème. Seulement, la division Hermann Göring, qu'on voit ici, qui est bien placée en face de Gela, va lancer une contre-attaque vigoureuse. Les Allemands, eux, ne reculent pas. Et les troupes américaines vont avoir effectivement bien des difficultés. Heureusement, au large se trouvent croiseurs, destroyers, qui vont bombarder ces troupes allemandes avec le plus grand succès. Et cette contre-attaque de chars va être annihilée. Donc, au soir du débarquement, on peut dire que tous les objectifs sont atteints. Et dès le 15 juillet, toute la plaine côtière d'Empédocle.
Empédocle, c'est sur la côte d'Agrigent, à Syracuse, est aux mains des Alliés.
La prédiction de Mussolini ne s'est donc pas réalisée. Je le cite. Si l'ennemi débarque en Italie, il sera exterminé jusqu'au dernier homme sur la ligne de sable où finit l'eau, où commence la terre. S'il occupe un lambeau de la patrie, ce sera dans une position horizontale, non verticale et pour toujours. En fait, ce débarquement annonce non pas la fin des espérances alliées, mais la fin de Mussolini. Le 25 juillet, il est démissionné, en effet, par le roi. Voici Victor Emmanuel. Et il est remplacé par le maréchal Badoglio. En fait, c'est même le Grand Conseil fasciste qui l'a d'abord destitué. Et le roi n'a fait qu'entériner cette décision. Mussolini est alors transporté à Ponza, au large de Naples. Mais on juge l'endroit trop près des troupes alliées qui pourraient s'en emparer. On le transfère alors dans l'île de Maddalena, près de la Sardaigne. Mais là, ce sont les Allemands qui sont dans l'île et qui pourraient s'emparer de Mussolini. Alors, on va le transporter une troisième fois. On va l'emmener, vous le savez bien, dans les Abruzzes, sur le Grand Sasso. Et là, eh bien, il est dans un hôtel. C'est l'hôtel qui porte un nom un peu curieux, le Campo Imperatore. Alors pour le Duce qui est déchu, c'est pas tellement l'endroit qui convient le mieux. Il ne va cependant pas y rester très longtemps, vous savez, puisque un commando commandé par un certain Scorzeni va le libérer sans trop de difficultés. Voilà. Le colonel, je crois qu'il était colonel à l'époque, Scorzeni. Commence alors une autre histoire, puisque Mussolini, libéré, va reprendre un petit pouvoir, c'est la République de Salo, mais c'est une autre histoire, Salo sur les rives du lac de Garde. Madame la Présidente nous avait situé à cet endroit. Alors en Sicile, pendant ce temps-là, les opérations se poursuivent quand même. Non sans mal. Les Américains progressent à l'ouest et au centre.
Donc à l'ouest, et dans cette direction, au centre vers le nord, bien entendu. Alors, dans cette direction, c'est évidemment pour aller vers Palerme. Et ses voisines, Baghera, qui se trouve par ici, Termini, et une base importante, une base maritime, Trapani. Et puis, le centre, évidemment, où une certaine défense demeure, pas facile, car vous connaissez le relief de la Sicile. Ce sera encore plus difficile pour les Britanniques à l'est, avec l'Etna, qu'il faut évidemment contourner. Mais à l'est, il n'y a qu'un étroit boyau, vous connaissez les lieux, la route entre Catane, Acireale et Messine, c'est au-dessus de la mer et sous la montagne. Donc les difficultés sont très importantes pour les Britanniques, un peu moins pour les Américains de ce côté-là. Alors les Américains dépassent très facilement Agrigente, on l'avait dit tout à l'heure, puisqu'ils étaient dès le premier soir à Empédocle. Le Caltanissetta, au centre de l'île, est pris dès le 15 juillet. Le 21 juillet, les Américains atteignent Castelvetrano, et sont aux portes, Castelvetrano c'est par ici, et sont aux portes de Termini. Baghera et Palerme tombent très rapidement, dès le 22 juillet. Le lendemain, c'est Trapani, voilà, qui est prise par la fameuse 82e Airborne des parachutistes américains.
Et le 21 juillet, les Américains font leur jonction avec les Anglais du côté d'Elna. Les Anglais sont arrivés jusque-là, ont beaucoup moins progressé, bloqués par l'Etna. Mais on peut imaginer que toute cette partie de l'île est aux mains des Alliés. Reste donc le réduit de la pointe nord-est de la Sicile. On est là depuis 11 jours seulement. Hein. Ça va quand même relativement vite. Les Allemands, dans cette pointe de l'île, vont opposer une farouche résistance et vont réaliser quelque chose d'assez exceptionnel au point de vue stratégique. Ça, c'est certain. On ne peut que le reconnaître. Catane ne sera prise que le 5 août. C'est beaucoup plus long. Il faudra 10 jours encore pour atteindre Taormina.
Taormina, c'est par ici, je crois.
Et dans la pointe montagneuse nord-est de l'île, les troupes de l'Axe vont opérer une retraite assez remarquable. Ils vont ralentir le plus possible la progression alliée et permettre l'évacuation de près de 100 000 hommes par-dessus le détroit de Messine. Le tout avec un matériel relativement important. Ceci à la barbe des forces navales et aériennes alliées, ce qui ne laisse pas surprendre quand même. Le bilan des opérations après cette évacuation de la Sicile par le détroit de Messine, côté allié, 25 000 tués, blessés ou disparus quand même, côté allemand, 37 000 hommes, côté italien, 130 000 combattants hors combat, pour la plupart faits prisonniers, puisque certains, je l'ai dit tout à l'heure, ont plutôt refusé le combat qu'autre chose. Il aura donc fallu 38 jours seulement pour que l'invasion de la Sicile soit réalisée. Mais, comme je viens de vous le dire, avec un goût d'inachevé, au grand soulagement du maréchal Kesselring, car un débarquement en Calabre aurait barré la route de la retraite aux Allemands, qui n'auraient plus eu que deux divisions dans tout le sud de l'Italie. Kesselring n'en est pas moins amer et très sévère avec ses alliés italiens. Je le cite. Il aurait mieux valu combattre seul, malgré l'insuffisance de nos forces armées, plutôt que devoir supporter des alliés inaptes au combat et d'une loyauté douteuse, ce qui n'est pas flatteur. Ce n'est finalement que le 2 septembre que Montgomery se décide à franchir le détroit de Messine. La résistance est nulle. La Calabre est prise en 3 jours par le 13e corps britannique. L'amiral Cunningham et son escadre entrent dans le port de Tarente comme à la parade. Brindisi et Barry sont occupés de la même manière les jours suivants. La libération du continent européen est commencée. D'autant mieux qu'un accord secret a été signé le 3 septembre à 15h15 dans le quartier général d'Alexander, le général Alexander, à Cassibille, petite localité près de Syracuse. Ça n'est ni plus ni moins que la capitulation de l'Italie, paraphée par le général italien Castellano et son homologue américain Bedell Smith. Voici la poignée de main de Castellano et d'Eisenhower. Eisenhower a salué le général italien, qui, vous le voyez, est en civil. Il a déjà renoncé avant d'arriver. Et immédiatement après, Eisenhower n'a pas jugé bon de rester. Il a laissé le soin à son adjoint Bedell Smith de signer cette capitulation. Alors avant de passer à ma petite conclusion, je vais vous montrer quand même quelques documents concernant ce débarquement. Voilà. Alors, le plus important dans un tel débarquement, c'est la logistique. On voit ici un certain nombre de chars. Et puis, là, on devine des bidons d'essence. C'est presque plus important que les chars. Enfin, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. L'approvisionnement en carburant est l'essentiel pour une division blindée. Je vais me tromper certainement, mais je crois que c'est plusieurs dizaines de milliers de litres qui sont nécessaires à une division blindée pour pouvoir opérer en une journée. C'est considérable. C'est ce qui a fait défaut d'ailleurs à Rommel en Tunisie, qui a été contraint d'abandonner certaines opérations faute de carburant. De même en Libye. Et par la suite, les Américains ont eu des difficultés dans les Ardennes aussi, faute de carburant. Et c'est aussi le manque de carburant qui fera qu'Hitler aura des décisions qui paraîtront aberrantes en allant vouloir défendre la Hongrie face aux Russes pour conserver les puits de pétrole attenant à ce pays. Mais ça, ce sont d'autres histoires. Débarquement. Pour être pris en d'autres lieux, puisqu'il y en a eu tellement à cette époque. Ce sont des Britanniques. Le casque est reconnaissable. Voici Patton. Patton, sur la route de Messine, il y a une pancarte, à la tête. Je reviens sur Patton. C'est la preuve que ces généraux, à cette époque, je reviens encore à nos généraux de 14, les généraux, là, étaient en première ligne. C'est très important. Ces combats ne se passent pas. Je vous ai dit 27 000 morts, blessés, disparus du côté allié. Mais ce qui est aussi significatif sur ce document, c'est la détresse des personnes qui assistent à la scène. Alors on voit sur ces images ces femmes, cet enfant qui expriment la plus vive douleur en ces circonstances. On a presque plus pitié d'elles que du blessé qui paraît déjà en bonne main. Ça ne va pas sans destruction non plus. Je vous ai dit que la Sicile avait été bombardée dès 40 avec l'invasion, ça n'a pu que s'accentuer. Donc les dégâts sont considérables, les dégâts matériels sont considérables. L'étroitesse des rues de ce village et l'étroitesse des routes à l'intérieur de la Sicile ont fait aussi que les opérations ont été très compliquées. Il y a certains itinéraires qui ont été complètement interdits. Les troupes blindées ne pouvaient pas passer. Les chemins étaient trop étroits. Alors on dit que les blindés peuvent passer partout. Ben non, ça n'est pas vrai. Il y a forcément des endroits où ils ne peuvent pas. Alors ce document est remarquable. C'est d'abord une photo de Robert Capa. J'imagine bien le GI debout. J'aurais voulu une deuxième image à côté, car on a l'impression que le GI plié en trois est de la même hauteur que le paysan sicilien. Alors, il est un peu penché, effectivement. Mais il doit y avoir quand même une grande différence de taille. Et surtout, cela nous montre que la coopération entre les troupes alliées et les habitants de l'île se sont sans doute très bien passées. La coopération a été totale, certainement. Je vous l'ai dit, les alliés sont des libérateurs. Alors non seulement la population, les humains ont coopéré, mais les animaux apparemment aussi. Je ne sais pas si l'âne a été restituée à ses propriétaires à l'issue des combats. Les Britanniques ont utilisé les moyens locaux pour se déplacer et transporter leur matériel. Alors ceci, c'est la reddition d'un général italien qui défendait Palerme. C'est le général Molinaro qui se rend au général américain Geoffrey Case. Et voilà une scène qui m'a servi de fond de l'écran en première en présentation. La libération de Palerme. Voilà une scène de liesse. J'attire votre attention sur cette scène. Elle est très significative. Essayez de vous souvenir, ça ne va pas être un grand effort, des scènes donc, que l'on a vues de la libération de Paris. Quelle est la grande différence? Je vous pose une question. Il n'y a pas de femmes. Dans Paris, vous voyez des femmes sur tous les chars, dans toutes les jeeps. Il n'y a pas une femme. Il doit y en avoir une. J'ai cherché. Il doit y en avoir une ici. J'ai cherché. On voit qu'on est sous une autre, dans une autre civilisation, civilisation méditerranéenne, où la femme ne manifeste pas à l'égal des hommes. Je vais vous présenter un engin qui a participé à ce débarquement. Ça ne présente peut-être pas forcément grand intérêt. S'il y a des militaires dans la salle, peut-être oui. Alors cet engin s'appelle le Duck. D-U-K-W. Le Duck, le canard, c'était son surnom. Il a été construit à 20 000 exemplaires par la General Motors. Conçu en 1942. Il a été testé accidentellement, je devrais dire. Puisque un naufrage a lieu sur les côtes américaines. Et ce prototype, alors, est utilisé pour aller secourir les passagers du bateau. Et on s'aperçoit qu'il est d'une maniabilité extraordinaire et qu'il peut abattre un travail, permettre des choses insensées sur l'eau et sur terre. Alors c'est un engin amphibie, dont toutes les roues sont motrices, qui a un double essieu à l'arrière. Donc, conçu en 1942, réalisé à 20 000 exemplaires par la General Motors. Alors ça, c'est un petit objet, je vois un monsieur qui le reconnaît, qui est grand comme ça. Il n'a pas été utilisé en Sicile. Mais l'idée en est venue en Sicile par le général commandant, non pas la 82e Airborne dont j'ai parlé, celle-ci était commandée par, je crois, un certain Ridgway, mais par le général commandant la 101e, qui s'appelait Taylor. Je vous ai dit tout à l'heure que les troupes aéroportées américaines se sont retrouvées dans un cercle de 80 km de diamètre, d'où la difficulté de s'y retrouver. Donc l'idée est venue à ce général américain d'avoir un moyen pour que les soldats puissent se retrouver les uns les autres. Et ça, c'est le fameux cricket. Hein, que l'on entend si bien dans le film Le jour le plus long. Hein, vous vous souvenez du film? Lors du débarquement de Normandie, dans le bocage normand. Il a été fabriqué par une usine anglaise qui s'appelle The Acme, je sais pas la signification, à plusieurs milliers d'exemplaires aussi, et donné aux troupes aéroportées américaines lors du débarquement de Normandie, lors du largage, au-dessus de la Normandie. Ah, j'ai été un petit peu vite. Si vous m'en laissez le temps, je peux continuer, Madame la Présidente? J'en ai plus pour longtemps. Alors, le débarquement et l'invasion étant réussis, ce que rencontrent les Alliés, c'est le vide total du pouvoir. Vous pensez bien que les autorités fascistes, si elles n'ont pas pu s'enfuir, se sont cachées. Elles ne sont pas restées là à attendre les libérateurs. Qu'est-ce qu'il reste? Les mafieux dont on a parlé tout à l'heure, et puis les ecclésiastiques. Donc les troupes d'occupation vont s'adresser plus volontiers en premier sur tous les Anglais, aux curés de village, aux évêques des villes plus importantes. Mais les mafieux vont apparaître très rapidement et souvent vont être aidés dans leur dessein par les mêmes ecclésiastiques. C'est ainsi que le fameux, je l'ai cité déjà deux fois, Don Calogero Guidini de Villalba va être nommé maire de sa commune grâce à l'évêque de Caltanissetta, pardon, la localité plus importante voisine. De fait, et jusqu'au 11 février 1944, la Sicile est contrôlée par les occupants, par l'AMGOT. L'AMGOT, c'est l'Allied Military Government of Occupied Territories. Ces troupes britanniques et américaines vont certes procéder à une certaine épuration. En juillet 1944, 7234 personnes attendent d'être jugées. Mais la clémence prévaut. Souvent, les préfets, les podestas, dont j'ai parlé tout à l'heure, sont simplement destitués de leurs fonctions, voire réintégrés, mais pour masquer un peu la chose, à un grade inférieur. Il n'empêche qu'ils sont toujours là. Les alliés se refusent à la médiation des partis antifascistes de crainte d'une radicalisation certainement forcée, certainement de gauche. Le communisme est rampant. On se souvient qu'avant la guerre, avant le début du fascisme même en Sicile, il y avait cet épisode rouge avec les localités tenues par les socialistes, le maire ouvrier de Syracuse. Alors, entre un gouvernement de militaires américains, 15% des GI sont d'origine italienne ou sicilienne, et une continuité institutionnelle grâce à la collaboration avec l'aristocratie de l'île, préconisée par les Anglais, c'est le point de vue de ces derniers et qui l'emporte. Mais la fuite du roi à Brindisi anéantit une idée qui était latente, une idée de monarchie. Cette idée va bientôt être supplantée par celle du séparatisme. Les études des services secrets américains concluent bien vite que le but du programme séparatiste est la restauration d'un régime semi-féodal, le retour à l'économie latifondière, contraire aux idéaux démocratiques des alliés, et en particulier là, des Américains. D'ailleurs, Poletti, un dirigeant américain de l'AMGOT, qui n'est autre qu'un ancien gouverneur de New York, appelle les 9 préfets de la Sicile à proclamer solennellement leur adhésion à un retour de l'île au sein de l'Italie. Toutefois, il serait concédé à l'île la pleine autonomie administrative, avec à sa tête un haut commissaire désigné par le gouvernement Badoglio. Les séparatistes réagissent brutalement. Après le Miss Movimento per l'Indipendenza della Sicilia, est créé un mouvement armé, l'Evis, Esercito per l'Indipendenza della Sicilia, vous arrêtez pas mon accent, auquel se joint un certain Salvatore Giuliano. Le voici, le voilà. Il est d'autant plus bel homme qu'il est tout jeune. Il a quel âge? Je crois qu'il a 23 ans au début de l'aventure. 21 ans en 43. Il est audacieux, provocateur, populaire auprès des plus démunis. C'est presque Romain des Bois. Il ne laisse cependant derrière lui que traces sanglantes. Jusqu'à un dramatique massacre, celui de Portela della Ginesta, qui est immortalisé par le peintre sicilien Renato Guttuso. Il y a là 11 morts, de nombreux autres blessés, qui évidemment mettent à mal la réputation de Salvatore Giuliano. Mais on n'est pas sûr qu'il ait été, et après coup, l'auteur de cela. Mais c'est une autre histoire là aussi. À sa mort, il est assassiné en 1950, je vais très vite. Et la commission d'enquête établira les liens entre sa troupe et la mafia, bien entendu, qu'il a protégé certainement un temps, puis devant ses exactions un peu trop voyantes, évincé de la manière la plus brutale. Même Don Calogero, le maire de Villalba, ça fait au moins quatre fois que je le cite, affirme sans détour que la police ne serait pas venue à bout seule de la bande de Giuliano. À la suite, une dernière image quand même de Giuliano. Ceci est le tournage d'un film. C'est le film de Francesco Rosi, c'est ça, hein? Salvatore Giuliano. Donc là, voilà le réalisateur et l'acteur qui joue le rôle de Salvatore Giuliano. Donc, le statut spécial que j'ai évoqué tout à l'heure de la Sicile est adopté et devient loi de l'État italien le 15 mai 1946. J'en resterai là, si vous voulez bien. Mais je terminerai quand même en vous disant que si vous croyez que c'est là la dernière invasion de la Sicile qui ait eu lieu, vous vous trompez. Car il y a eu, je crois que c'est en 1945, une autre invasion. La célèbre invasion de la Sicile par les ours. Mais ça n'est qu'un conte de Dino Buzzati. Voilà, je vais terminer. Je vous remercie.
Merci à notre ami pour cette exposé très clair et dit à la manière d'un conteur, nous a vraiment bercé dans tout, pourtant des événements tragiques, des moments de guerre. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Quelques des gens qui voudraient avoir des petites précisions, pourtant c'était très clair. J'ai lu, moi, personnellement, qu'il y a eu, à l'époque de l'invasion de la Sicile, une très grande dispute, enfin, une dispute permanente, entre Patton et Montgomery.
Ben, c'était deux fortes personnalités, en particulier Patton, qui était Patton, une tête de cochon. Hein.
Voilà. Oui.
Ah, Montgomery était peut-être un peu plus malléable, mais c'était quand même des... Il fallait, à l'époque... être des gens de cette trempe pour faire ce qu'ils ont réalisé.
Oui.
Ça n'était pas n'importe qui. Oui.
Oui, il y a quelque chose, je ne sais pas, vous avez peut-être une réponse. Je ne comprends pas pourquoi
pas sûr.
Les Alliés n'ont pas attaqué les Allemands, au moins ils ont traversé les Trois de Messine, alors qu'ils avaient une aviation énorme.
Je vous l'ai dit, ça ne laisse pas de surprendre.
Bah, c'est stupéfiant, ils auraient pu détruire un moitié d'armes.
Ça, on peut penser que oui, le bombardement du détroit de Messine.
Voilà. C'est pas le programme américain, c'est pas le projet.
Vu leur aviation.
Ça, évidemment, vu de loin, pour nous, c'est une erreur, mais. Et toute la phase de la conquête de l'Italie peut-être a été changée. Elle aurait été facilitée s'il y avait eu quelques dizaines de milliers d'hommes en moins. C'est l'histoire.
Il nous a appris beaucoup de choses, notre ami, parce qu'il y a des choses qu'on vous ne connaissez pas, ce n'était pas un débarquement pour nous, enfin, les Français, on était un peu déconnectés de ce débarquement-là, finalement.
J'ajouterais quand même que des Français, un petit contingent français a débarqué en Sicile, pas le premier jour. Mais il y a eu quelques Français qui ont participé aux opérations. Je ne saurais vous dire combien, mais enfin c'est minime. C'est des troupes évidemment venues d'Afrique du Nord qui ont participé. Ah ben après ils se sont couverts de gloire sur le Monte Cassino. Des troupes quasi exclusivement constituées de Marocains, les Goum, voilà, commandés par le maréchal Juin, troupes. Beaucoup de troupes françaises étaient constituées d'éléments nord-africains, voire de républicains espagnols. La 2e DB, par exemple, il y avait un nombre de républicains espagnols. Si, il y avait des. Important, mais.
Oui. Il est bon de revenir sur ces événements, quand même. Merci.
De rien. Mais j'ai pu commettre quelques erreurs. Si on me corrige, j'accepte très volontiers.